Il avait une expression dans son regard et la façon d'interpréter les morceaux, parce que alors elle connaissait très peu l'italien. Mmh. Elle chantait en italien. Ça m'a frappé. Elle me regardait tout le temps. Mais avec sa bouche, sa grande bouche, ses yeux qui parlaient, ça m'a frappé. J'ai dit, ça, c'est quelqu'un.
Comme élève, comment était-elle?
Ah, parfaite.
C'est-à-dire?
Docile, intelligente, travailleuse. Travailleuse, ça, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase deux fois. Je disais, oui, papito. Le lendemain,
tout était en
magnifique.
Place.
Et tout comme ça. Elle était très musicale et musicienne, parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano, très bien. Et puis, elle était la première, elle partait la dernière. Ça, c'était étonnant, parce que comment elle pouvait résister là 5 heures? Elle entendait tous les élèves, les coloratures, les ténors, tout. C'est pour cela qu'elle avait cette idée de chanter, de faire les notes élevées. Elle me disait, est-ce que je pourrais le faire, les picchettati? Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout.
Le témoignage d'Elvira de Hidalgo, qui après une très brillante carrière sur scène au Metropolitan Opera de New York, grande Rosine du Barbier de Séville notamment, fut longtemps professeur et joua auprès de la jeune Callas à Athènes un rôle absolument déterminant. On y reviendra. Juste avant, on écoutait une Tosca de Puccini captée à Mexico pendant l'été 1952, sous la direction de Guido Pecco. Dans les années de l'après-guerre, l'Amérique du Sud est l'un des théâtres importants des triomphes de la jeune Maria Callas. C'est aussi à Mexico, un an avant, que la soprane chantait le rôle-titre d'un opéra de Verdi, Aïda. Là encore, il s'agit d'un rôle des tout débuts. Callas l'a interprété pour la première fois en 1948 en Italie. Vous allez l'entendre, dans ses représentations de Mexico, la chanteuse est dans une forme vocale flamboyante. À cette époque, Callas a déjà commencé à soumettre sa voix à des changements vertigineux de registre et de répertoire. Elle chante désormais les grands Verdi et Wagner, mais en même temps Rossini, Bellini ou encore la Turandot de Puccini. Une voix sur quasi 3 octaves qui fait tomber presque toutes les frontières. Maria Callas est au sommet de son art et elle compte bien le faire entendre.
Thank you.
L'air d'Aïda au début de l'opéra de Verdi, dans une représentation électrique captée à Mexico, au Palais des Beaux-Arts le 3 juillet 1951. Petite anecdote. L'année précédente, et ici même à Mexico, Callas avait déjà chanté cette Aïda, elle avait fait sensation, et surtout, elle avait voulu clouer sur place un ténor qui, disons, faisait peut-être un peu trop le ténor à son goût. Trop de notes tenues et trop haut. Eh bien, il allait voir ce qu'il allait voir. En pleine scène de triomphe de cette Aïda, la jeune femme catapulta comme cela en plein vol un contre-mi bémol. Écoutez bien cette note qui va partir comme une fusée. Et immédiatement, le délire du public mexicain.
France Musique, Callas, Mille et une voix, une série racontée par Karine Dehé.
Alors vous-même, vous nous disiez donc que vous avez eu la chance d'avoir cette période relativement anonyme encore en Grèce, du moins limitée à la Grèce, qui vous a permis de travailler en profondeur. Et puis ensuite, donc, refus de New York, parce que ce qu'on vous proposait, vous aviez la sagesse de penser que ce n'était pas de l'occasion rêvée. Et donc, alors, vous avez quand même été en Italie.
J'ai eu de la chance, c'était le destin, tout à fait, qu'ils cherchaient dans 47 pour l'Arena di Verona. C'est le théâtre ouvert, une arène.
En plein air.
Et c'était Séraphine alors. Et le directeur du théâtre, c'était Zenatello, un grand ténor d'une fois. Et il demandait, pour la Gioconda, il n'existait pas une dramatique soprano que, malheureusement, tout à l'heure, n'existe pas encore. Et pour faire la Gioconda, et il m'a entendu, il m'a écouté, et j'ai eu de la chance d'avoir ce contrat. C'était pas un beau contrat, mais c'était la chance. Et j'ai pas regardé les clauses et tout ça. J'ai dit, bon, je vais à n'importe quel prix et je prends mon chance.
Pour vous, c'était un bon contrat parce que c'était l'occasion de rencontrer
Ce que je
des personnages.
C'était Séraphine, le directeur, c'était avec des collègues illustres, évidemment fameux. Moi, j'étais pas du tout fameuse. Alors, pour moi, c'était la vraie chance, le destin. Mais j'ai pas eu de la chance, c'est-à-dire, je me suis fait très mal à la cheville, alors c'était un peu une chose douloureuse. Puis après, c'était l'autre chose, on m'a pas tout de suite compris. C'était une voix un peu difficile à comprendre. D'ailleurs, elle est une voix difficile à comprendre au commencement, je crois, la mienne.
In questi fieri momenti.
Au-delà d'un air emblématique, au-delà de ce Suicidio lancé par la Gioconda, l'héroïne de l'opéra de Ponchielli, une cantatrice elle aussi, une chanteuse des rues, voilà une œuvre importante pour les débuts de la Callas et dans sa vie de femme. C'est le premier grand rôle qu'elle chante en Italie, aux arènes de Vérone, au mois d'août 1947. L'événement se déroule sous la baguette de celui qui va devenir son mentor, Tullio Serafin. Et c'est également ici, à Vérone, que Maria rencontre celui qui sera bientôt son époux. Il s'appelle Giovanni Battista Meneghini. Il a 27 ans de plus que Maria. Leur pacte se noue dans ces termes. « Je prendrai en charge, dit Meneghini à la jeune femme, tous vos besoins. Hôtel, restaurant, garde-robe, tout. Vous ne vous occuperez que de chanter et d'étudier. À la fin de l'année, nous évaluerons les résultats et si nous sommes tous les deux satisfaits, nous signerons un accord qui concernera nos futures relations professionnelles. » Enregistrée à Turin en 1952, sous la direction d'Antonino Votto, la Gioconda de Ponchielli est la toute première intégrale de studio que Maria Callas a enregistrée 5 ans après ses débuts à Vérone. Elia comme partenaire, vous l'avez entendu, une magnifique Fedora Barbieri. La Gioconda fait d'ailleurs partie des quelques opéras que la soprane enregistrera une seconde fois entre la fin des années 50 et le début des années 60. Lucia di la Mermor, Norma et Tosca font également partie de ces grands titres que Callas a repris en studio. Époque du reste tout à fait différente dans la voix et dans la vie de la Callas, où plane l'ombre d'un certain Aristote Onassis, mais ça c'est une autre histoire.
La barca s'avvicina, i miei compagni vi condurran prima dell'alba al lido dei tre porti. Lesti verso Aquileia drizzerete il volo e di là poco lungi il sole di Illirio vi splenderà.
E così sia.
l'acte 4 de la Gioconda de Ponchielli, c'était les voix de Maria Callas, Fiorenza Cossotto et Pietro Miranda Ferraro, seconde intégrale en studio de cette Gioconda pour Callas en septembre 1959, sous la baguette d'Antonino Votto. On raconte que la chanteuse arriva radieuse aux séances d'enregistrement à Milan. Quelques jours après, la nouvelle d'une liaison entre Callas et Onassis faisait la une des journaux du monde entier. Mais n'allons pas trop vite, restons un peu à cette période des grands débuts et des premiers triomphes.
France Musique, Callas, Mille et une voix, une série racontée par Karine Dehé.
De Maria Callas à sa professeure Elvira de Hidalgo, début 1951. Très chère Donna Elvira, bien sûr aujourd'hui je bénéficie du fruit d'avoir tant étudié depuis enfant. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais eu une telle satisfaction. Dieu est bon avec moi. Et vous, êtes-vous contente de moi? Je voudrais vous demander une faveur. J'aurais aimé avoir vos bijoux de scène. C'est plus une satisfaction morale qu'autre chose. Je me sentirai pleine de fierté et de compétence d'avoir avec moi et porter sur scène dans les opéras les bijoux de la Hidalgo. Ne croyez-vous pas que je sois la seule qui puisse en hériter? Je vous prie de m'écrire et d'être fière de Maria. Tant de baisers, Maria. La fin des années 40 et le tout début des années 50 est une période passionnante dans l'essor de la carrière internationale de Maria Callas. En 1949, à Buenos Aires, le Teatro Colón l'entend sous la baguette de Tullio Serafin dans Turandot, Norma et Aïda, rien que cela. dès l'année suivante, Mexico va devenir pour elle la scène de triomphes inouïs. On l'a entendu tout à l'heure dans des extraits de Tosca et Aïda. Elle chante également ici sa toute première Léonore dans le Trou vert de Verdi. Et dans le même temps, sur le continent européen, il faut poursuivre la conquête de tous les grands théâtres italiens. Une œuvre de ce point de vue-là occupe une place tout à fait à part. Ce sont les Vêpres siciliennes de Verdi. On en écoutait à l'instant le célèbre boléro d'Elena, enregistré en studio en 1954. Écoutez à présent ceci, c'est un moment décisif dans la carrière de Maria Callas.
Yeah!
La ville de Florence est un lieu majeur dans les grands débuts italiens de Maria Callas. C'est ici, au Teatro Comunale, que la jeune femme a donné sa première norma. C'est ici qu'elle chante en 1951 sa première Traviata. Et quelques mois plus tard, au cours du même musical florentin, Callas interprète le rôle très difficile d'Elena dans Les Vêpres siciliennes de Verdi. C'est Erich Kleiber, chef immense et le père d'un autre très grand futur chef, Carlos Kleiber, qui dirige. Vous avez sans doute entendu dans cet enregistrement restauré, encore une fois, l'intensité de l'incarnation, les colorations, la noirceur que Callas met dans le timbre de sa voix. C'est une soirée prodigieuse. Ce sont ces vêpres florentines qui ont ouvert grand les portes de la Scala de Milan à Maria Callas. Elle y fait l'ouverture de la nouvelle saison le 7 décembre 1951. Après Rome, Vérone, Palerme, Turin et Florence donc, Milan l'acclame avec retard, ainsi que l'écrit René de Secati dans sa biographie de Callas. Mais c'est à Milan, tremplin mondial, que se consolidera cette même gloire.
Vivo.
Un nouvel extrait des Vêpres siciliennes de Verdi, un air de l'acte 4 que Maria Callas a enregistré dans les dernières années de ses sessions en studio, entre 1964 et 1965, avec Nicola Recinio à la tête de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire.
France Musique, Callas, Mille et une voix, une série racontée par Karine Dehé.
Ce qui est passé dans votre vie, c'est une chose qui continue à vous intéresser ou ça n'existe plus?
Ah non, nous avons, je crois que nous de théâtre, on ne peut pas penser à ce qui est passé parce qu'on n'a pas le temps. Il faut penser à maintenant et avant. C'est dans notre métier, même sur scène. Ce qui est passé est passé.
Vous m'avez dit un jour que, une fois vous aviez brûlé ou jeté les robes que vous portiez...
Pas du tout, une fois. C'est arrivé maintenant.
Maintenant?
Maintenant, oui, avant de quitter Milan, j'ai tout brûlé. Pas tout à fait, c'est-à-dire...
Vos anciens costumes de théâtre?
Oh oui.
Pourquoi?
Parce que c'est un passé que j'aimais pas, c'est-à-dire c'était la naissance, ma naissance, disons, artistiquement. Alors, le goût change, le corps change, artistiquement on change, c'est-à-dire la base ne change pas, évidemment. Parce que si j'ai des yeux noirs ou marrons, il reste toujours ça. Mais pendant 15-20 ans... Évidemment, l'art même, si on est consciencieuse, change.
Vous nous avez dit en somme jusqu'à présent la femme que vous n'étiez pas. Alors je vous pose la question, quelle femme êtes-vous?
Je crois que comme femme, je suis tout à fait normale. Comme caractère, vous parlez de femme sur la scène de la vie, disons, ou sur la scène de théâtre?
Peut-être des deux?
Non, ce sont deux choses tout à fait différentes. Pourtant, ils sont égales, c'est-à-dire le fond spirituel est toujours à moi. Ça m'appartient et ça, vous ne me voyez pas dans la vie parce que vous voyez la femme simple, qui aime marcher dans les rues, toute simple, gaie, et pas être observée parce que, je dis franchement, j'ai honte. Enfin, quand on m'arrête dans les rues, on me fait des compliments, je ne sais pas par quel côté me tourner. Parce que, évidemment, ça... Ça gêne un peu, enfin, on a honte, voilà.
Oui.
Et disons le timidité, disons le je sais pas quoi. Et alors ça, c'est un peu difficile, quoi, parce qu'on a tout à fait autre impression de moi comme Callas. La femme, elle est simple, elle aime voir la télévision, lire des bêtises, elle aime des fois écouter naturellement des choses jolies, lire et faire l'intellectuel que je suis pas parce que j'ai jamais eu le temps. Parce que j'ai toujours travaillé sur scène, alors comme... Intellectuel, j'apprends ici et par là, ça c'est tout.
France Musique, Callas, Mille et une voix, une série racontée par Karine Dehé.
Quand je chante Tristan, je me sens bien, avait écrit Callas à son futur époux Meneghini. C'est un rôle impétueux qui me plaît. Les mots datent du temps où la soprane chanta le rôle d'Isolde sur scène à Venise en 1947, son tout premier Wagner. Deux ans plus tard, Maria Callas enregistrait cette mort d'Isolde sous la direction d'Arturo Basile. C'est l'un des tout premiers airs que Callas a gravé en studio. C'était Callas, mille et une voix, deuxième épisode, une série racontée par Karine Dehay, écrite par Stéphane Grant et réalisée par Sophie Pichon. Prise de son Delphine Baudet, mixage Guillaume Ledu, avec la collaboration d'Aline Biette. Les 7 épisodes sont à écouter sur le site de France Musique et en podcast sur l'appli Radio France.
Ce samedi et ce dimanche à 18h sur France Musique, on vous emmène à Château-Vallon en 1976 avec une double affiche de rêve. Le quartet du saxophoniste Barney Whelan et puis celui du trompettiste et chanteur Chet Baker.
Les légendes du jazz, Jérôme Badini.
Samedi et dimanche à 18h, c'est Jazz sur France Musique et quand vous voulez sur le site et l'appli Radio France.
Ce mardi soir, sur France Musique, hommage spécial à Benoît Dutertre qui nous a quittés en juillet dernier. 2 heures de musique avec les frivolités parisiennes pour un florilège d'opérettes, de musicals et de chansons populaires, mais aussi des artistes qui l'ont côtoyé comme les chanteuses Nicoletta et Marie-Paul Bell, l'accordéoniste Félicien Bru, les pianistes Bruno Fontaine et Jean-François Higel et ses amis écrivains et chroniqueurs. Hommage à Benoît Dutertre à suivre ce mardi à 20h sur France Musique et via l'appli Radio France.